France Inter.
Je me présente, Clayston. Alors ce ranch appartient à ma famille depuis 5 générations.
CO2, mon amour.
Nous avons toujours vécu sur ces terres selon la loi du Far West.
Denis Chessou.
Il vous faut amener ce troupeau de bêtes jusque dans le Colorado.
Ça va être merveilleux.
Au début, vous vous sentirez comme une bande de cochons sur patins à roulettes. Nous allons vous surveiller. Nous verrons comment vous vous tenez en scène. Et vous allez traverser des paysages et des contrées aussi belles que le paradis.
Sur France Inter.
Vous arrivez ici, ras des villes, vous rentrerez chez vous comme un...
Eh bien, nous, on va le faire quand même beaucoup plus calmement. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2, mon amour, la nature qui chuchote à vos oreilles et qui prend le temps de ne pas aller trop vite, avec Camille Blanès, notre collaboratrice, Juliette Gou qui réalise l'émission et Thierry Dupin qui choisit le disque. Alors avant de respirer l'air de la montagne, un petit tour par les océans, les mers, nos fabriques de vie, eau salée, mon amour. Homme libre, toujours tu chériras la mer. Mais aujourd'hui, homme libre ou ultra-libéral ou libertarien, toujours tu chériras la mer pour tes vacances, pour y poser tes jouets à moteur, pour lui éclater l'âme et remonter toujours plus de gaz, de pétrole, de minerais. L'aimer, bah oui, c'est continuer à la pomper encore plus puisque les océans sont là à notre service et arracher les posidonies en jetant l'ancre. L'aimer, mais c'est chaluter profond et tirer un filet énorme qui racle la joue des fonds marins en tuant toute vie après son passage. L'aimer, eh ben c'est nous regarder, savoir que notre vie terrestre, votre vie terrestre, sort de la mer le long des golfes pas très clairs. C'est réduire la voilure de vos ambitions prométhéennes. Alors nous, les océans, on est bien contents, car vous n'allez pas que huiler les oursins et les crevettes avec vos crèmes solaires, là. Ben non, vous avez enchaîné un PSG Milan avec sa marée de supporters. Tiens, un mot qui vient de la mer. Et puis, il y eut aussi une journée mondiale de l'environnement, oh, qui n'a pas fait de vagues. Oh, encore un autre mot qui vient de chez nous. Et puis là, votre grand raout onusien, l'UNOC niçois, qui déverse ses troupes de scientifiques, docteurs, pêcheurs, plongeurs, économistes, politiques, ONG, chevronnés, une équipe médicale au complet pour un bilan de santé, le troisième déjà. Et nous, évidemment, on vous oxygène, donc un peu de respect pour le plancton et les algues. On vous nourrit, on régule le climat, on invente vos nuages, faiseurs de pluie pour vos terres. Nous sommes le berceau d'une bonne partie de vos civilisations. On vous a abrité dans nos criques, laissé construire vos villes. On avale 90% de la chaleur et 25% de votre CO2. Oh là là ! On vous fabrique du beau, des tours du monde à la voile, du rêve. Et en échange ? Eh ben des bateaux de croisière sur 10 étages, du forage, des aires marines qui font semblant d'être protégées, du blanchiment de coraux, une Claire Nouvian intimidée chez elle par les industriels poètes, de la pêche business, le bateau de Greenpeace interdit à Nice, sans oublier 90% de nos animaux marins qui bouffent du plastique et vous avec. Ah, il y a pas à dire, hein, vous envoyez de beaux signaux d'une espèce en pleine forme qui pense le futur. Mais que va-t-il sortir de cette affaire, se dit Poséidon le grec? Vont-ils signer un moratoire pour ne pas fouiller les entrailles des mers, renchérir Neptune le Romain? La petite sirène connaît l'histoire que lui écrivit Andersen, celle d'une enfant qui idéalise son avenir et qui veut grandir trop vite. Celle de l'enfant qui, aveuglé par ses envies, ignore les avertissements et les conseils qu'on lui donne pour la protéger. Calée sur son rocher dans le port de Copenhague, elle regarde ses humains sortir leur stéthoscope, puis en admirant les flots, elle se dit « Homme libre, toujours tu chériras la terre et la mer, en espérant qu'un jour, tu ne chériras pas la mer à MER. » Allez, un bon coup de nageoire et hop là, on y va. Où cela? Eh bien, en montagne, dans les Hautes Alpes, se faire du bien. Hervé Pochon et Christian Couloumi nous attendent l'un et l'autre à différentes altitudes.
Mon pagin est tout vert, allez là,
Raquette Willy Lee, bien qui parle au la où t'es yé. Comment t'es captivé, côté où aller? Comment t'es qui passé au la où t'es yé, au la où t'es yé? Mouin kamande, ka qui passé au la où t'es yé? Mouin kamande, ka qui passé.
Je dis je, ou levé. Ou découvert, on t'a tombé. On bandit, on montait. Comme des cabaches, je te potais. C'est crasé, crasé, crasé. Un besoin de craser. Elle est là, m'a commandé. M'a commandé, qu'a qui passait.
Quand sirène la sonné, m'a commandé, qu'a qui passait.
Alors, ça n'a pas un rapport direct, hein. C'est Liawa, donc originaire de la Guadeloupe. Quoique, bah, ils ont la Soufrière, évidemment. Enfin, nous, ce n'est pas un volcan que nous allons découvrir. Non, nous partons donc dans les Hautes-Alpes et vous allez retrouver une voie que nous aimons.
Voilà, il y a le pic de Bure, le sommet du coin qui est à 2007. Il y a le pic de Charence qui est à 1009, juste à droite. Et en face, il y a cette espèce de gros plateau avec cette belle falaise réputée dans le monde entier par tous les passionnés d'escalade, qui s'appelle Céuse. Et moi, j'ai appris à skier à Céuse. Maintenant, Céuse fait partie des premières stations à disparaître, puisque voilà, il n'y a plus assez de neige, le réchauffement. Alors, pendant un moment, ça m'arrangeait, parce que comme ça, je pouvais aller faire de la peau de phoque. Il n'y avait plus de remontée mécanique, donc j'étais tout seul.
Oui, mais alors sans phoque. Hein.
Mais enfin, sans phoque, oui, c'était synthétique. Hein. Oui, pardon, oui, bien sûr. Et CO2, mon amour. Et donc, bon, mais maintenant, c'est vrai que c'est... Même la peau de phoque synthétique, ça devient un peu plus rare parce qu'il neige de moins en moins souvent. Et donc, voilà. Il y a une authenticité, il y a une qualité de vie. On a à peu près le même ensoleillement qu'à Marseille.
300 jours de soleil. Hein,
voilà. Si on regarde au loin, on peut imaginer parfois voir presque la mer, quoi. Quand je monte au sommet de Céuse, je vois le Mont Ventoux. C'est vrai que c'est une région que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment une région qui n'a que des qualités, quoi.
Eh ben oui, c'est un bel ambassadeur, donc Hervé Pochon, de ces hautes Alpes natales. Donc c'est une terre aussi où la faune sauvage se plaît, même si elle ne plaît pas toujours à tout le monde. Et pourtant, une économie de l'animal sauvage, bah ça reste à inventer. Ça fait le succès donc des Abruzzes, mais en tout cas, c'est superbe. Hervé Pochon, vous le connaissez, comédien, marcheur qui vient de sortir un livre, « Ma balado à pied sur la diagonale du vide » aux éditions Artaud. Homme de radio, de podcast, donc originaire des Hautes-Alpes hein, depuis plusieurs générations. Dans la rencontre avec lui, on est au-dessus de Gap, on est à la Fraissinouse, face à sa montagne, on va dire tutélaire, un synclinal perché, modeste et beau, rescapé donc de la déforestation. J'ai donc nommé la montagne de Céuse, aujourd'hui un très joli site d'escalade qui a vu grandir Hervé Pochon. Un coup de vélo avec une route sèche pour y arriver, et hop, un coup d'amitié surtout, et tout va bien.
Cette fontaine qui est là, où j'ai été obligé de mettre une petite pancarte, eau non potable, parce que si quelqu'un boit et qu'il tombe malade, après, on est responsable.
C'est ça.
On met eau non potable. Mais moi, je la bois, écoutez bien.
Sinon, il y a combien de générations de cochons ici?
Il y a mes parents, mes grands-parents, mes arrières-arrières.
J'ai vu qu'il y avait un fidèle pochon, voilà, très joli.
Fidèle pochon qui était parti aux États-Unis comme beaucoup de gens du Champsaur pour essayer de gagner un petit peu de vie parce que c'est pas un département riche, les Hautes-Alpes. Et d'ailleurs, juste derrière, il y a un petit village que vous devez sûrement connaître, cher Denis, qui s'intitule Chaudinck.
Ah oui.
Et Chaudinck a été un village où en 1895, la population avait une vie très difficile et ils sont disputés un peu, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dise « bon, il faut vendre ». Et ils ont vendu leur village à l'État. L'État a racheté pour reboiser. L'État était en recherche de terrain pour reboiser, puisque c'est vrai qu'à l'époque, on se chauffait au bois. Donc, j'ai des photos de cette colline-là, qui est recouverte d'arbres. Eh bien, sur les photos, il n'y a pas un arbre, parce qu'on consommait beaucoup plus de bois. Donc, voilà, c'est tout ça pour dire que c'est une région qui est assez pauvre et qu'on en était à Chaudun. On est à 18 km de Gap, à pied, mais il fallait y aller à pied, quoi, alors qu'il y avait le train qui pouvait déjà arriver en 1895, je crois, dans les Hautes-Alpes, mais eux étaient complètement exclus. Et voilà.
Alors ce qui est formidable, c'est qu'un garçon comme vous, on a un peu ce point commun parce qu'on a la bougeotte, on aime aller voir, rencontrer les gens, toucher la géographie. Alors vous l'avez fait avec votre modestine à vous, donc avec
l'âne. Elle s'appelait Sardane.
Elle s'appelait Sardane, voilà. Sardane, donc copine, on va dire, avec un petit laps de temps différent de modestine lorsque vous avez refait le chemin de Stevenson. Homme qui avait récemment aussi fait les chemins de Compostelle et puis aussi donc les diagonales du vide ou la diagonale du vide. Et mon ami, vous allez repartir. Et on est tous pareils, nous les humains, on a besoin d'un point d'ancrage. Et ce point d'ancrage, c'est ici dans les Hautes-Alpes.
Bah, c'est vrai que c'est... moi, mes parents sont nés à Marseille. Et donc, ma grand-mère, comme beaucoup de Marseillais, l'été, c'était très chaud. Et donc, ils cherchaient un peu de fraîcheur. Et ils sont venus s'installer au-dessus de Gap. Et donc, depuis, moi, j'ai eu la chance de pouvoir... découvrir cette région chaque année, en profiter, me balader. Et c'est vrai que mon plaisir ici, c'est de ne pas toucher à la voiture et de tout faire à pied, quoi.
11h25. Alors là, Patrick, je ne sais pas si tu te rends compte, mais on ne va jamais y arriver. On n'a même pas fait 2 km là. Hein ? Alors on va mettre 20 ans à la faire, cette étape. Tu t'en rends compte de ça ou pas ? Tu en as conscience ? Ok, t'as gagné. Pause pique-nique.
Alors face à nous, donc, cette montagne de Céuse, avec un tréma sur le U de Céuse, et qui est très intéressante parce qu'en fait, elle a servi aussi pendant des années à montrer avant-après. Je m'explique, il y avait eu un déboisement absolument terrible avec le pastoralisme, entre autres, érosion totale, et puis... là, pour le coup, l'homme ne fait pas que des dégâts, donc il a replanté tel Georges Fabre sur les Goiles. Et donc, maintenant, donc, elle a une belle peau verte.
Ah oui, oui.
Allez, on va aller voir le pic de Bure, qui est très intéressant parce que donc, c'est un plateau merveilleux, avec des lagopèdes. D'ailleurs, c'est un endroit où, de reproduction des lagopèdes. Alors évidemment, le lagopède, il niche au sol, et puis il est très mimétique. Alors, il faut quand même faire très gaffe, en général, quand on est randonneur. Et puis au sommet, vous avez donc ces différentes coupoles et antennes qui écoutent le ciel.
C'est ça.
Donc là, il y a aussi un décor assez fabuleux.
Je crois qu'il y en a deux comme ça. Il y en a, il y a un plateau, donc le pic de, au plateau de Bure, et il y a la même chose au Chili.
Ah oui.
Je crois que c'est deux endroits où le ciel est tellement pur qu'on peut observer les étoiles avec une qualité exceptionnelle. Ah, il y a le GR93 qui passe, là, un petit balisage blanc et rouge.
D'accord.
Vous voyez le pic de Bure qui se dessine
sur
le ciel bleu.
Quelle merveille.
Comme un homme couché, parfois.
C'est ça. Qui domine le dévolu, hein, donc, qui est dans le dévolu. Pour être
ah bah oui, oui, puisque au pied du pic de Bure, côté nord, il y a la station Super Dévolu.
Super Dévolu, oui. Et qui n'était peut-être pas la plus heureuse d'un point de vue architectural dans les années 70, on ne peut pas dire, mais enfin bon.
Alors c'est marrant, parce qu'au départ, moi, on allait là un peu, parfois, et parfois, on était en plein soleil ici, on disait, bon, bah, ski, super dévolu. Et quand on arrivait là-bas, on passait le col du Festre.
Ouais.
Et là, on était en plein brouillard. On dit, ah ben non, on va pas aller dans le brouillard. On retournait. Et on n'avait plus de neige, mais on revenait dans les Alpes du Sud. Enfin, pas on était sur les Alpes du Sud, mais on revenait un peu plus au sud. Quoi.
Interactualité, édition de 13h, Yves Mourouzi.
Bonjour, nous sommes le 17 décembre, dans 8 jours Noël, dans quelques jours les départs pour les vacances. Alors, il nous faut faire le point sur l'enneigement des stations, car il fait beau sur Paris, il fait beau dans un certain nombre de grandes villes, et beaucoup d'entre vous se posent la question, est-ce que cette saison 70 de sport d'hiver ne sera pas une saison gâchée ?
C'est très agréable, parce qu'évidemment on est entre du pin sylvestre, on est entre du chêne, mais évidemment que c'est pas nos chênes de la forêt de Rambouillet. Des alignements là aussi, c'est quoi, c'est du noyer peut-être?
Exactement, bravo Denis. Et c'est, ça, c'est effectivement des noyers que mon père a plantés. À la Toussaint, je ramasse les noix.
Vous gaulez.
Je gaule les noix. Je n'ai même pas besoin, elles tombent toutes seules, d'ailleurs, vous les voyez. Mais en fait, pour être honnête, ce sont des noyers pour le bois. Donc les noix, je ne sais pas si c'est lié, mais les noix sont plus petites que... Ce pas des très grosses noix. Quoi.
D'accord, d'accord. Nous avons nos chardons, ce qui se bien évidemment ici. Et alors, au cours de vos pérégrinations, ce rapport à la nature, vous le voyez évoluer, quoi. Et puis, alors, peut-être que chez vous aussi, ça a bougé.
Ah, bah moi, j'ai des enfants et ça m'amuse, parce que sur mes 5 enfants, j'ai envie de dire, j'en ai 2,5 qui sont très sensibles. Un qui m'a incité à faire le compost, une qui mange plus de viande, et 2 qui disent « Ah non, c'est bon, moi, vous êtes gavés, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas en profiter. » Donc, il y a des débats.
C'est la très bonne moyenne française. Quoi.
Exactement.
Ce n'est pas forcément parce qu'on connaît un passage à vide qu'on emprunte cette diagonale. Cette diagonale du vide qui coupe la France en deux. Cette diagonale du vide qui part de la Meuse et va jusque dans les Landes et dont la vocation première n'est pas forcément de se vider la tête.
C'est vrai que, particulièrement en faisant la diagonale du vide, j'ai traversé des régions qui sont moins fréquentées et c'est ce qui m'intéressait. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est les conséquences du Covid, mais il y a des gens qui viennent s'installer, pour qui ont besoin de nouveau d'avoir de l'espace, de nouveau d'avoir un contact avec la nature, qui se disent « si jamais on doit être de nouveau confiné, je ne veux plus être dans un appartement ». Et donc, des gens s'installent un peu au milieu de nulle part. Alors ça ne recrée pas encore des commerçants, mais ça crée quelques petites activités. Je pense à une fille qui faisait des bougies là en Haute-Marne, des bougies artistiques. Enfin, voilà, les gens réinvestissent le territoire.
Ah, c'est bien parce qu'en fait, à chaque petit virelet, là, on est sur un chemin, on a hop une échappée qui est encore différente. On regarde à droite, on a toujours ces montagnes, mais alors, elles sont pas oppressantes ici. Elles vous tombent pas sur la gueule.
Vous avez tout à fait raison. Moi, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, parce que j'ai été asthmatique quand j'étais plus jeune. Ouais. Et c'est vrai que quand on va un peu plus vers Briançon, ou on a quelques cousins par là-bas, et ben là, moi, j'étais beaucoup plus oppressé par la barre des écrins, toutes ces montagnes là, qui montent à 4000. Montagne, quoi.
Bien sûr. Superbe par ailleurs. Hein,
oui, oui, c'est beau, j'ai eu la chance de les gravir, mais c'est vrai qu'au quotidien, moi, j'aurais plus de mal. J'aime bien être ici, on a presque des senteurs méditerranéennes, on sent que Marseille n'est pas loin, et ça me... j'aspire mieux.
Alors là... on se prend quelques petites fleurs, on les écrase entre nos doigts, et nous avons de la lavande sauvage. Celle-là, c'est bien, parce qu'on est à quelle altitude ?
Bah là, on est à plus de 1000 mètres.
Donc, c'est de la sauvage. Voilà. C'est vraiment pas du lavandin, puisque c'est pas...
Ça, ah bah si vous voulez, le vrai nom, c'est Lavandula angustifiola 1000. Mais bon, je vous le donne comme ça, parce que moi, les auditeurs, pendant ma balade, m'ont dit « Non, mais Hervé, vous pouvez pas dire « Oh, bah là, il y a des jolies plantes vertes. Donnez-nous des détails. » Et vous avez une application Plante Net, alors vous prenez la photo et hop, il vous donne la réponse.
Oui, comme ça,
Et on a la même chose avec les oiseaux.
Oui, je sais bien.
Pour être honnête, c'est plus les oiseaux qui étaient... Moi, j'ai dit « Ah, il y a des très beaux gazouillis d'oiseaux. » Et on dit « Mais quand même, là, vous pouvez pas... »
Une petite fauvette ou un pinson.
Voilà, la rive musicienne, la mésange à tête noire. Enfin, moi, j'ai découvert plein de noms grâce à cette application.
Alors là, on a aussi quand même notre arbre des Hautes-Alpes, c'est de Mélèze. Celui-là, il est sympa parce que... Il laisse de la vie à ses pieds, contrairement aux épicéas ou bien aux sapins.
C'est ça.
On a des petites bouses là, mais ça c'est normal, ça c'est plutôt bon signe.
Il y a des vaches, il y a le voisin Bruno qui fait de la vache laitière, et donc souvent ces vaches sont là pour à la fois pour entretenir le territoire, parce que si on ne fait rien, ça pousse, et puis c'est assez propice aux incendies, hein, c'est sec et tout. Donc voilà, heureusement que...
Que les animaux font le taf. Hein.
Qu'il y a encore quelques agriculteurs qui sont là pour faire le travail.
Bon, un petit coup de patte encore, hein, quand même, pour se quitter. Parce que
là, quand même, on a marché. Hein.
Et alors, on a fait, on va voir. Eh oui, que c'est bien. Waouh. Voilà,
C'est bon ça. Ouais. Buvez, Denis, buvez.
J'espère bien.
C'est de l'eau qui se perd.
Non, justement, c'est ça qui est bien, c'est qu'après elle repart, elle va quand même nourrir la nature, retomber dans une rivière, donc elle ne se perd pas. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de beau, d'autres balades?
Oui, moi, de continuer à marcher avec mon micro et de faire ce que vous faites, de faire des rencontres, de les partager grâce au podcast. Pour moi, c'est un vrai plaisir, quoi.
Grand merci, cher Hervé Pochon.
Denis, merci de vous être arrêté dans ce petit coin perdu des Hautes-Alpes.
On se force pas.
À bientôt, Hervé.
À bientôt. Bonne continuation, Denis.
Et vous retrouvez Hervé Pochon avec ma balado à pied sur la diagonale du vide. Qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui? Ça, c'est le sous-titre, c'est aux éditions Artaud. On quitte le massif du Beauchêne où nous étions près du Buëch. Pour Lambrunet, on va retrouver Christian Couloumi, ancien garde au Parc National des Écrins.
J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Tout va si mal, est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Me demande-t-elle soudain, me feras-tu un bébé pour Noël?